Allons-y.
Alors, bon, ça peut peut-être permettre de donner quelques petits éléments avant de parler du film en lui-même. Bon, voilà, on dit souvent que c'est un des films les plus personnels de Miyazaki. En fait, il y a énormément d'éléments autobiographiques dans ce film. Ce n'est pas un film autobiographique, mais il y a plein de choses qui sont très très nettes dans le fait qu'il insère beaucoup de choses de sa vie personnelle. Son père était à la tête d'une petite entreprise qui fabriquait des éléments pour le fameux Chasseur Zéro, donc qu'on voit là, qui a été conçu. Sa mère était tuberculeuse. Le studio Ghibli qu'il a fondé avec Takahata s'appelle Ghibli en référence au nom d'un avion créé par l'ingénieur Caproni, donc qui est dans ce film-là. Il est passionné d'avions, il commence à dessiner des avions alors qu'il est lycéen, exactement comme dans la scène au début. Il est myope, ce sont les mêmes lunettes qu'il porte. La coiffure de Jiro, c'est sa coiffure à lui. Bon, bref, il a mélangé énormément de choses, mais en fait c'est des choses qui sont déjà dans les autres films, mais on les retrouve ici de manière condensée. Je ne sais pas si vous aviez vu Porco Rosso par exemple, mais à la base le film est prévu comme une suite de Porco Rosso, c'est-à-dire que quand on peut voir des croquis préparatoires, le personnage au début avait un nez de cochon, exactement comme Porco Rosso en fait. Puis finalement il va orienter le film vers quelque chose de plus réaliste en tout cas dans la manière de représenter le personnage.
Oui, il y a cette dimension autobiographique et même plus généralement il y a quelque chose d'introspectif dans l'ensemble du propos. D'abord c'est l'histoire d'un personnage qui consacre sa vie au perfectionnement de son art, et quelque part c'est aussi la démarche de Miyazaki, et c'est même un parallèle qui est creusé très nettement tout au long du film entre la démarche de l'ingénieur et la démarche de l'artiste, et entre la conception d'un avion et l'animation d'un film. Notamment il y a cette idée que il y a une sorte de trait entre de fil entre le dessin de l'avion, l'avion en papier et l'avion qui s'anime pleinement, l'avion en métal. Mais la démarche introspective, je pense qu'elle joue aussi sur le plan de sur un plan plus mélancolique, c'est-à-dire que il y a cette idée finalement ce que raconte le film, c'est d'abord peut-être un personnage qui passe à côté de l'histoire en fait, qui est dans une forme d'aveuglement par rapport à ce qui constitue l'arrière-plan événementiel de ce qui se passe à son époque. Alors comme tu disais, c'est un personnage qui est myope, qui a des lunettes et il voit pas l'arrière-plan en fait, littéralement. Et tout au long du film, l'histoire apparaît moins, les événements historiques qui sont extrêmement présents apparaissent plus à travers des détails qui sont dans la toile de fond, par exemple les moyens de locomotion qui évoluent, enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais lui reste quelque part aveugle à tout ça et au fait que les avions qu'il produit sont utilisés à des fins guerrières. Il en est conscient, hein, à plusieurs reprises d'ailleurs, il en discute avec son ami, c'est évoqué à plusieurs reprises. Mais néanmoins, il est dans une forme d'aveuglement par rapport à ça. Et de la même manière, dans sa relation, dans le mélodrame qui constitue le film, c'est-à-dire cette romance qu'il a avec cette femme pour laquelle il éprouve une grande passion, quelque part, il la laisse se consumer aussi. Et donc, tout entier consacré, dévoué à son œuvre, il y a quelque chose qu'il laisse passer à côté de lui. Et je crois que les deux fils, quelque part, le drame historique et le mélodrame intime, se relient dans cette idée qu'il y a une part de destruction dans toute création. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a quelque chose de très intime et que la scène finale qu'on a vue là, joue vraiment bien ce mouvement-là, à la fois de deuil porté pour cette femme qui disparaît et qui doit même quelque part disparaître pour que puisse s'accomplir son œuvre, parce que quand elle part finalement exactement au moment où on arrive à l'apogée, son œuvre finale, parce qu'il y a toujours cette recherche depuis le début de l'œuvre finale. D'ailleurs, bon, c'est l'œuvre finale, c'était présenté comme une sorte de film testament, d'œuvre finale, et l'ingénieur italien nous convie lui aussi à participer à son dernier vol, etc. Donc il y a cette dimension de deuil, et en même temps, un appel à vivre avec ce vent qui souffle et qui nous appelle à revivre. Et les deux se nouent là aussi, puisque dans la scène finale on a ce cimetière d'avion, donc le deuil et qui fait écho au poème de Valéry qui est le cimetière marin, et donc cet appel à la fois, cette tension, cette ambivalence entre le côté mortifère et l'appel à la vie.
Non, parce que c'est vrai que le mot malédiction d'ailleurs est employé en fait. Il y a un moment où il parle de les avions sont à la fois des engins merveilleux et maudits, Et Porco Rosso était un personnage qui était maudit, c'est pour ça qu'il avait une tête de cochon. Et c'est vrai que je crois qu'il se projette vachement là-dedans, Miyazaki, c'est-à-dire que c'est un artiste qui est très très obsessionnel, qui prend un temps infini pour faire les films. Chaque image qui est dessinée par les autres personnes dans le studio, il les corrige lui-même toutes, c'est-à-dire toutes les images. Je crois que l'animation japonaise, c'est 12 images par seconde, je crois. Enfin, ça fait beaucoup de dessins quand même à corriger. Et je crois que c'est... Il parle beaucoup du fait qu'il a peur de ses propres obsessions, et je crois que c'est en ça qu'il le comprend, ce personnage. C'est pour ça que, d'ailleurs, que le film est très, très empathique envers ce personnage-là. Mais il en montre effectivement la face sombre, quoi. C'est-à-dire que, oui, il consume sa femme, il l'a fait mourir avant l'heure en la faisant venir pour qu'il puisse continuer à dessiner des avions. Il le dit à un moment quand même, hein, c'est qu'il faut, il peut pas, tu peux pas faire les deux en même temps, quoi, à part si elle vient. Et la peur, oui, de cet aveuglement, quoi, le fait d'être enfermé dans son obsession, de faire des choses qui sont certainement très belles, et les rêves de Jiro sont jamais remis en cause dans leur beauté, mais est-ce que ça suffit pour un artiste, finalement, de juste avoir réalisé son rêve? C'est vrai que la scène finale, moi, je la trouve magnifique pour ça, quoi, c'est que... Et donc, ok, il est allé au bout, et ça se finit sur... Et donc, et c'est vrai que pour un film qui est censé être le dernier film... C'est d'une mélancolie incroyable, c'est-à-dire que c'est quand même le maître de l'animation japonaise, enfin, il est reconnu comme ça, et il finit sur un doute majeur exprimé de manière mineure, en tout cas par rapport à ses autres films, c'est-à-dire que le film est extrêmement classique. Je pense que ceux qui ont vu d'autres Miyazaki ont peut-être été surpris par la sobriété. Il y a un classicisme de montage, de narration, un minimalisme en fait qu'on ne lui connaissait pas, comme s'il fallait qu'il soit le plus clair possible dans cette dernière image qu'il veut laisser de lui. Et on finit sur un cimetière d'avions quand même, et sur un personnage qui rêvait de s'envoler, qui s'enfonce dans le sol. C'est comme la dernière chose qu'il fait, on ne voit même plus marcher, quoi. Il s'enfonce littéralement dans le sol. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très émouvant, quoi.
Ouais, bah, y a une recherche d'épure dans ce film qui contraste avec peut-être certains de ses précédents films, et qui correspond assez bien à l'épure qui est recherchée aussi dans le tracé de l'avion... par le personnage. Enfin, ces avions, l'idée, c'est que, enfin, l'apport principal de cet ingénieur, c'est ces espèces de rivets qui font que il y a une surface extrêmement lisse et que l'avion peut d'autant mieux prendre l'air. Et donc, bon, il y a ce côté presque pesant dans le film, cette mélancolie forte, mais comme il y a cet élément du vent, il y a aussi la légèreté. En fait, le vent est ambigu. Le vent, c'est à la fois quelque chose de très éphémère. Enfin, une sorte de, et en même temps, c'est un souffle vital qui anime l'ensemble. Et ce que j'aime beaucoup dans la relation qui se noue entre les deux amants, c'est qu'elle tout se joue autour du rapport à la fois à la pesanteur terrestre et à la légèreté. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à tomber et à, déjà quand ils se rencontrent, c'est dans un train où il y a cette ombrelle qui s'envole et elle qui manque de tomber, et il la rattrape. Et après, quand ils se retrouvent dans l'hôtel, ils sont dans une sorte d'échange, une sorte de parade amoureuse et de jeu où ils tombent incessamment. Je trouve ça très beau. Et aussi, ce qui se noue entre les deux passe par d'autres motifs comme le jeu entre le train et l'avion. Ils se rencontrent dans un train. Le train apparaît tout au long du film parce que bon, il y a tout ce jeu sur les différents moyens de locomotion qui évolue petit à petit. Au sein du film, avec les bœufs notamment, enfin, c'est marquant, les bœufs qui portent l'avion, c'est un peu les deux extrêmes de la technologie. Mais l'avion apparaît, le train, pardon, apparaît aussi comme quelque chose de très terrestre qui rattache au sol beaucoup plus que l'avion. C'est-à-dire que l'avion, c'est le rêve, clairement, l'aérien, voilà. Et le train, au contraire, ce serait plutôt la rectitude du destin. Enfin, ce qu'on voit à la fin, et justement, ça se rejoint très bien avec l'aspect mélodramatique du film, c'est que quand elle part, quand la petite fille lit la lettre d'adieu, on a ensuite un plan dans le train où la femme part, et elle voit l'avion en fait depuis le train, et il y a à la fois le côté extrêmement rectiligne du tracé du train et l'espèce de balai aérien. Et je trouve ça très beau. Il y a en fait plein de petits détails sur le train, que ce soit le moment où il fume sa cigarette et qu'on entend le chouchou du train, plein de choses qui Et puis même, en fait, quand ils se rencontrent, il y a un plan sur le lien qui fait entre les deux wagons, comme si quelque part ils étaient rattachés l'un à l'autre par cet élément très terrestre. Donc entre l'aérien et le terrestre, le vent, etc., il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, oui, sûrement, parce que c'est quand même assez marquant dans le film, le son des machines est très, très éloquent dans la manière que Miyazaki a de dépeindre la technologie. Parce que, en fait, le son de quand les avions démarrent, ou même ou des hélices, en tout cas, ces sons-là sont faits par des voix, par du souffle et par des espèces de voix très graves, qu'on retrouve à un autre moment. Je ne sais pas si vous avez noté que c'est aussi le son du tremblement de terre. Et donc, ce serait un son commun des éléments, en fait, des éléments que les humains essaient de maîtriser à travers l'industrialisation, une espèce de force un peu comme ça, ancestrale, quoi, qu'on retrouve dans un moteur d'avion. Et qui se rebelle constamment, c'est-à-dire que le tremblement de terre, déjà, bon, c'est peut-être la scène la plus marquante du film. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'ils étaient en train de travailler dessus pendant le tremblement de terre de 2011, celui de Fukushima, en fait. Donc toute la séquence a été reprise complètement au début, en fait. Elle a été complètement repensée après ce drame-là, parce que Miyazaki était en plein doute de comment montrer un tremblement de terre dans ce contexte-là. Et donc le choix de ces voix... Ça fait qu'on a l'impression quand même que c'est un gros animal qui s'ébroue, quoi, le tremblement de terre, hein, qui essaie de se dégager de ses rails, de ses maisons. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans Princesse Mononoke, dans plein d'autres films de Miyazaki, qui est cette nature qui résiste au contrôle des hommes. Et on les retrouve dans les avions, notamment quand les moteurs explosent et qu'il y a de l'huile qui saute partout, et que du coup, là aussi, on sent que les forces, en fait, ne veulent pas se laisser contrôler. Et alors après, voilà, moi, j'arrive pas à me décider parce que j'ai l'impression qu'il y a les deux dans le film. C'est à la fois une quête noble, ça donne l'impression, en tout cas à travers certains personnages, et en même temps, quelque chose qui va irrémédiablement conduire à la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que le tremblement de terre, ça semble un présage. Ce tremblement de terre a vraiment eu lieu, hein, c'était en 1923, mais tu m'avais fait la remarque que ces ronds qu'on voit dans l'eau au début évoquent un peu, d'une certaine manière, les futures explosions atomiques, hein, qui sont l'apogée de cette espèce de tentative de contrôle des forces de la nature. Donc la catastrophe est déjà présente dans le projet d'industrialisation, et en même temps porteur de rêve. Les deux sont indissociables, j'ai pas l'impression que Miyazaki choisisse entre les deux, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois. Et j'irais même plus loin, c'est que j'ai l'impression que c'est un projet qui remonte même à l'humanisme, c'est-à-dire que par humanisme, j'entends le terme européen de la pensée de la Renaissance, où on mêlait l'art et la science pour faire progresser l'homme, et que Miyazaki, j'ai l'impression, met en scène l'échec, un peu la limite de ce projet-là. On sent que c'est un film qui est très irrigué de culture européenne, hein. Il fait énormément de références à plein d'époques artistiques ou littéraires européennes, et là, on sent que bah oui, l'artiste qui regarde l'arête de poisson pour tracer l'aile d'un avion, bah, c'est Léonard de Vinci. Et la machine du début du rêve, c'est clairement un dessin à Léonard de Vinci, d'une machine avec des ailes d'oiseau. Et que ben il s'inscrit lui dans cette continuité là, mais en tant que témoin peut-être de la fin de la croyance en ce projet là, en tout cas qu'il puisse vraiment exister, que vraiment ce ne soit que du progrès. Il raconte lui-même qu'il est né en 41 et que les premiers souvenirs qu'il a de l'enfance, c'est son pays dévasté, quoi. C'est sur ça que s'est construit son imaginaire du rapport à la technologie, donc forcément ça ne peut pas être qu'un rêve, quoi.
Oui, et je disais tout à l'heure que c'est un personnage qui a le sentiment de passer à côté de l'histoire, mais quelque part ça fait surtout ça se passe pas simplement à une échelle individuelle, mais aussi à l'échelle quelque part d'une classe, c'est-à-dire que ça dépeint aussi une sorte d'une bourgeoisie qui quelque part passe à côté de ce qui est en train de se passer, pas simplement dans l'histoire, mais des changements en fait entre le Japon traditionnel et la modernité qui arrive, et une sorte de tension à la fois entre une course pour rattraper les autres grandes puissances, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut voir cacher à ce personnage à la fois une attraction à l'égard du modèle américain et en même temps une volonté de patriotisme et de recherche de tradition. Et ça passe notamment par une remarque assez drôle. Vous savez, il mange du poisson parce qu'il aime observer les arêtes. Et donc c'est un lien très... c'est un lien très fort entre la nature et la technique, etc. Et à un moment donné, il dit « Est-ce que les Américains mangent aussi du macro ?» Et je trouve que ça marque bien ici à la fois une attraction vers les Américains. Qu'est-ce qu'ils font, les Américains? Parce qu'on voudrait faire comme eux. Et en même temps, une distance, parce qu'il a une conception qui est différente. Tout l'épisode qui est dans l'hôtel, assez étrange. Nous, ça nous a beaucoup fait penser à... On a l'impression que ça se passe en Suisse pendant tout un moment, et c'est... et on a l'impression qu'il se retrouve dans un environnement un peu cosmopolite de la haute bourgeoisie qui a l'air à l'écart, complètement coupé du monde. Et en plus, il y a une référence à Thomas Mann, au livre de Thomas Mann. Le personnage porte aussi, le personnage de l'Allemand porte exactement le nom d'un personnage du livre de Thomas Mann, La Montagne Magique. Et donc on est un peu dans cet environnement d'aristocratie exilée qui ne sait pas trop ce qui est en train de lui arriver, quoi.
Oui, mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que je viens de dire par rapport à ce projet humaniste. Il y avait ce projet de République des lettres au XVe siècle qui est entre savants, entre lettrés. On se réunit au-delà des conflits nationaux et on fait progresser l'humanité sans prendre en compte les basses besognes des gouvernements. Et il y a un peu ça dans la manière qu'il a de réduire les nazis juste à des voyous, quoi. Enfin, moi, je le vois quand même comme assez critique, ce passage, quand même, sur cette espèce de détachement et d'insouciance un peu. Là, on doit être à l'été 1938, quoi. Et ils sont en train de boire du vin en chantant des chansons. Enfin, c'est-à-dire que le totalitarisme japonais, il est déjà bien là, à ce moment-là, quand même. On sait que la Chine... D'ailleurs, il fait la liste. On sait que la guerre contre la Chine a déjà bien commencé, que la Mandchourie, ça fait un moment qu'elle est occupée. Enfin, disons que pour quelqu'un qui observe l'actualité, il y avait de quoi savoir vers quoi on se dirigeait. Et ce personnage apparaît un peu comme un prophète, le personnage allemand qui vient de La Montagne Magique, un roman qui se passe en fait avant la Première Guerre mondiale et qui vit un peu la même situation, mais avant la Première Guerre mondiale. Et là, il aurait l'âge du personnage s'il avait vieilli, en fait. Donc c'est comme si Miyazaki faisait venir un personnage d'une autre œuvre pour prévenir son personnage à lui, dire attention, enfin, moi, j'étais déjà dans une œuvre où on a vécu la même chose, en fait, et on est à la catastrophe, on l'a pas vu venir. Mais il réagit pas. Il réagit pas parce qu'il est amoureux. Et le personnage d'ailleurs de La Montagne Magique s'en amuse et n'insiste pas, quoi. C'est comme si c'était, il n'y avait rien à faire.
Il passe à côté et en même temps il est hanté par tout ça, c'est-à-dire que ça revient dans les rêves. Et c'est ça qui est surprenant dans le film, c'est que le réel fait abstraction de l'histoire, enfin tout ce qui se passe dans le réel, alors que et le réel revient dans le rêve. C'est-à-dire que c'est dans les rêves qu'on voit la guerre. À chaque fois, dans la scène d'ouverture, il y a ces espèces de missiles et de grands vaisseaux qui apparaissent. Et à chaque fois qu'il y a un rêve, quasiment, il y a le retour de la guerre, des explosions. Il y a une pulsion de mort, mais qui passe toujours dans le rêve, alors que le réel, lui, semble vidé de la guerre. Ce qui est assez surprenant, finalement, comme inversion.
Oui, c'est vrai. Les rêves semblent être des visions plus pertinentes sur... Il voit l'avenir dans ses rêves, finalement, sans savoir le décoder. Il y a d'ailleurs plusieurs passages que je n'avais pas remarqué la première fois où se mêlent les deux. Je ne m'explique pas vraiment pourquoi, pendant le tremblement de terre, il voit les avions italiens passer, par exemple. Enfin, il y a des moments comme ça où il a du mal à discerner, mais il y a clairement une question sur la perception de l'artiste ou de l'ingénieur qui tourne à l'obsession, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand même, il est obsédé par les avions, c'est tout. Enfin, ça ne va pas plus loin. Et il refuse de se poser la question... Ça me vient, je fais un lien d'ailleurs, c'est vrai qu'il a quelque chose même d'un peu monstrueux, je reviens sur le terme que tu employais tout à l'heure, un peu vampire, un peu qui aspire l'énergie vitale de sa femme, qui aspire sa propre énergie dans son obsession. Et il y a cette scène qui est quand même assez marquante pour nous, d'aujourd'hui en 2021, où il allume une cigarette à côté de sa femme qui a la tuberculose quand même. Enfin, et je crois que c'est très très voulu comme image, parce qu'il est en train de lui tenir la main, elle est en train de mourir à côté, et lui il est en train de dessiner des avions, et il fume un peu comme une usine, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il aspire l'énergie vitale. Alors c'est pas une métaphore extrêmement fine, mais je pense que c'est celle du film. Clairement, elle est associée à la nature, à la montagne qu'on voit au loin, qui regarde au loin, et à qui on aspire l'énergie alors qu'on l'aime. C'est pas le problème qu'on veuille la tuer, mais il y a ce... Oui, ça passe par là. Il faut qu'il y ait de la mort pour créer. Et bon, après, le problème, c'est qu'on en arrive à une espèce de mort globale, mais ça, il ne le voit pas arriver. Par contre, il accepte quand même très clairement de créer au prix de mettre en danger sa femme. Il y a quand même ce trouble-là dans le personnage, quoi.
Ouais, et puis en fait, c'est clairement une dimension sacrificielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients du fait qu'elle va mourir et en fait, ils l'acceptent déjà parce qu'il y a cette idée de l'éphémère de toute chose. Même pendant le moment de l'apogée de leur amour et de leur insouciance, donc quand même très très bref, justement, c'est, t'as le personnage de l'Allemand qui dit c'est un très bel été, mais l'été ça passe très vite, quoi. Et il y a beaucoup de suicides quelque part qui sont pas directement filmés dans le film, mais qui sont suggérés, comme dans la scène finale, ces avions kamikazes dont on nous dit qu'ils partent pour ne jamais revenir. Et tout passe comme ça par des sortes d'ellipses. Et j'ai l'impression qu'il parle très souvent en fait de la guerre et du drame de la guerre et de ses kamikazes de manière extrêmement détournée et presque métonymique, en filmant autre chose, en filmant ce mélodrame, et pour entremêler les deux quelque part.
Ouais, mais je pense qu'il décrit l'époque dans laquelle ont vécu ses parents comme une période morbide, où les gens sont un petit peu obsédé par une tentation suicidaire d'un certain côté pour la société du Japon de cette époque-là, c'est quand même un peu cliché de le dire, mais ça fait partie. Mais même dans l'industrialisation un peu sauvage du Japon ultra rapide qui va de l'ère Meiji jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et que le dernier message que lui laisse le fantôme de sa femme, c'est non, en fait, il faut vivre, enfin, il faut changer d'axe en fait de compréhension. Ce sur quoi l'ingénieur italien lui dit viens, on va boire du vin, c'est un bon moyen de commencer à vivre, mais c'est comme ça la conclusion du film aussi. On retrouve le côté un peu bon vivant. On va redescendre d'un cran, et comme si c'était un peu un conseil qu'il se donne à lui-même aussi, hein, peut-être, il est peut-être temps de prendre sa retraite et de profiter de la vie. Il y a quelque chose de destructeur dans la création, je crois que c'est vraiment ce qu'il veut montrer dans ce film, plus que tenir un discours sur le Japon, ou sur l'idéologie, ou sur l'impérialisme japonais. Moi, je trouve ça drôle la manière dont il représente les soldats, qui sont juste en train de hurler, et qu'on comprend rien à ce qu'ils disent. C'est toujours comme ça qu'ils montrent les soldats, d'ailleurs. C'est l'anti-militarisme de Miyazaki, c'est toujours ça. C'est soit on les voit pas, soit quand on les voit, ils sont incompréhensibles. Mais donc, ça prouve bien que je pense qu'il a pas de discours politique du tout, quoi. C'est vraiment sur... l'époque lui donnait un écrin idéal pour sa réflexion sur la création, d'autant plus qu'il l'a vécu à travers ses parents, quoi. Donc, il a un lien particulier avec cette époque-là, quoi.
Est-ce que vous voulez intervenir? Parce qu'on parle...
C'est la première fois que je vois ce film, donc je vais pas trop partir sur le sujet, mais j'ai eu l'impression que vous passiez assez rapidement sur le thème du vent dans le film, et moi j'ai eu le sentiment tout le long du film qu'il y avait un message qui était porté, qui était super puissant en fait en rapport avec le vent, sur à la fois son côté très annonciateur. À chaque fois que le vent se lève, entre guillemets, c'est qu'il y a un événement qui va se produire, et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a à la fois quelque chose dans le vent qui est indispensable, parce que c'est le vent qui porte ces avions, c'est le vent qui est à l'origine de toute sa... Enfin, qui est presque sa source créatrice à cet ingénieur. Et en même temps, il y a quelque chose de très dangereux dans le vent qui apporte toujours les malheurs, en fait, dans le film.
Ouais, ben, merci, parce qu'effectivement, on est juste passé à côté du titre du film. clairement, s'il y a un projet, je pense, formel ou de représentation, c'est le grand défi du dessinateur Miyazaki, là, c'est de se dire, je vais m'attaquer au vent, enfin, qui est l'élément invisible. Et d'ailleurs, à un moment, il y a même une réplique qui dit ça, qui dit, personne ne voit le vent, on ne voit que ce qui frémit sous l'effet du vent. Donc le vent, c'est le frémissement, c'est le mouvement. Et pour un cinéaste, c'est quand même la force motrice, le mouvement. Et oui, il y a le nombre de sens qu'il met derrière le vent, ça peut être le vent de l'histoire qui peut se transformer en tempête, qui fait avancer, c'est le vent qui rapproche les êtres. Enfin, le poème même à la base vient d'un poème de Valéry qui est Cimetière marin, donc c'est déjà associé à un cimetière. Donc, oui, si tu veux dire des choses sur le vent.
Ghibli aussi, tout simplement.
Ghibli à la base
veut dire vent. Tu rappelais que ça venait de l'aviation, mais c'est aussi un thème qui veut dire vent en fait. Je crois que c'est un thème arabe à l'origine. Mm-hmm. Et donc c'est très lié. Bon, il a réalisé Nausicaa et la vallée du vent. Enfin, c'est un élément qui est très très présent. Et ici, oui, tout le film entier tourne autour de ça. Et il y a des détails qui sont vraiment sublimes. La fois où il se retrouve et que il y a l'eau qui commence à frémir lentement avec la progression. Enfin, c'est effectivement, ça rapproche les êtres effectivement, et ça les sépare. Enfin, je rejoins complètement ce que tu disais sur.
Et puis je crois que même dans le côté histoire de l'art, il s'inscrit un petit peu dedans, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle peint un peu comme de peinture impressionniste, enfin, ça fait penser à du Renoir où elle peint surtout le mouvement plus que les formes, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au rêve de maîtriser les éléments pour les industriels, ou en tout cas pour les ingénieurs, l'artiste aussi, clairement. Et le vent reste un peu le but ultime, que ce soit l'aviation à ce moment-là. On peut pas, c'est le rêve ultime de l'être humain qui fabrique une machine volante, qui dompterait le vent. Et c'est aussi celui qui alimente les autres éléments. C'est-à-dire qu'on voit que quand le vent se met à souffler, ça alimente l'incendie qu'il y a après le tremblement de terre. Ça, oui, c'est une force extrêmement destructrice. Je crois que le vent, il y a ce côté, est-ce que le vent souffle encore? C'est l'inspiration aussi. Quand l'ingénieur italien n'arrête pas de lui demander est-ce que le vent souffle toujours ? Oui, il souffle toujours, le vent qui gonfle les voiles, quoi, mais qui peut se transformer en tempête.
Oui, il y a un jeu en plus entre le vent, là encore, entre le vent et les autres éléments. Tout à l'heure, je parlais du train, mais le tremblement de terre, en fait, s'inscrit exactement dans la continuité. C'est-à-dire qu'on voit en fait, le train passer, et puis il y a une sorte de lave en fusion
ligne de fracture,
à reprendre la même ligne. Et on a l'impression que les éléments, quelque part, communiquent vraiment avec... avec tout ce qui se passe dans ce monde-là. Enfin, bon, on n'a pas dit certaines évidences, mais L'avion, c'est bon, associé au vol dès le début, le premier rêve au début du film, avant la chute, puisque bon, quelque part, la séquence initiale aussi plaque le modèle du film entre l'ascension et la chute qui sont toujours liés. Mais on le voit s'envoler et il y a plein de petits raccords avec l'envol, pas simplement au niveau des avions, mais aussi il y a ces mouettes qui l'observent avec attention, avec dans le plan suivant, l'avion qui est transporté qui est poussé par des hommes, et en fait ils prennent la forme d'un oiseau juste en dessous de l'aile de l'avion, et donc quelque part ouais, c'est un objet de métal mais qui est en permanence lié à la nature, à l'oiseau, au vent.
Oui, et puis je crois que tu avais fait une réflexion aussi, même si on prend le vent comme air, il y a le côté que c'est l'air vital qu'on respire, elle a quand même une maladie infectieuse des poumons, enfin ça aussi est lié, et il y a ce côté l'air qui porte et qui broie. Il y a aussi cette séquence que j'aime beaucoup du test de l'avion qui à un moment explose en plein vol, ou juste après il se met à pleuvoir, où là je trouve que ça marche extrêmement bien dans la façon de formaliser le fait que le vent peut broyer la machine en une seconde, et que ça, tout d'un coup il est sidéré, et il a cette phrase d'ailleurs très étrange où il dit une route infinie s'ouvre devant moi. C'est l'être humain qui cherche à côtoyer les cieux, c'est Icar. Je pense que là, le vent, Miyazaki le montre comme le défi ultime, quoi. Et d'ailleurs, qui est même mêlé à une espèce d'univers céleste à la fin, une espèce de paradis des aviateurs, ou cette espèce de voie lactée d'avion là, qui plane, qui avait déjà dans Porco Rosso, d'ailleurs, exactement pareil. Sachant qu'à la fin, ce rêve-là, et ce ciel à conquérir, quand même, ça finit encore sur je ne sais pas bien si c'est un rêve ou si c'est l'enfer. Et l'autre qui lui dit, je sais pas trop, c'est un peu pareil.
C'est très juste, et même enfin, je pense que si on part du titre, c'est aussi un appel, le vent, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est temps de vivre, et je crois que tout simplement, à chaque fois que le vent vient relancer la machine, remettre de l'air dans les poumons, dans un sens ou dans l'autre.
Et d'ailleurs, c'est pas une référence directe à Valéry, c'est-à-dire que les éléments biographiques qui ont servi pour le personnage de Jiro ne viennent pas que du vrai personnage. Il a mélangé deux personnages, d'ailleurs. À la fin, il y a le nom, hommage aux deux personnages. L'autre, c'est Ori, j'ai peur d'écorcher son nom. C'est un écrivain, en fait, qui a vécu à la même époque. Et il a pris des éléments de sa biographie parce qu'il était fiancé à une femme qui est morte de la tuberculose, et qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle Le vent se lève. En fait, c'est l'adaptation à la base de cet ouvrage-là. C'est ce romancier-là qui reprenait les mots de Valéry. Donc, en fait, il se met déjà dans une continuité très longue. Et il a mélangé donc, la vie de ces deux personnes.
Non, mais je pense que vous donnez une critique très très juste du film. Et pour revenir un petit peu sur l'aspect passif de Jiro, enfin, pas passif, mais détaché de son époque, de tout ce qui l'environne, en fait, même l'amour, qui est pourtant quelque chose qui se vit, quoi, et qui ne se subit pas, on dirait qu'il le subit. Mais je voudrais juste rajouter que, malgré le fait qu'on répète plusieurs fois le vers de Valéry, lui ne semble jamais le comprendre. C'est-à-dire qu'il ne vit jamais, en fait.
Et même... il faut qu'on lui rappelle à la fin, encore une fois.
Oui, et c'est rappelé plusieurs fois, et malgré cette insistance sur des termes qui sont assez simples, évidemment qui peuvent s'interpréter plus complexement, mais qui sont assez simples à comprendre, même quand il mange, il reste bloqué et figé sur l'arête de Macro, et il savoure pas, en fait. Il se dit... est-ce que mon aile ne devrait pas être un petit peu plus fuselée? Est-ce que les Américains font telle chose? Et je trouve que, enfin, c'est juste pour compléter un peu ce que vous disiez, je trouve que c'est super intéressant, en fait, que malgré toutes les choses à vivre, qu'il pourrait vivre, y compris dans la nourriture, dans l'amour, dans beaucoup de choses, il reste focalisé sur son œuvre à tout instant, et voilà.
Oui, complètement, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une seule scène où il fait autre chose que rêver ou réaliser ses machines. C'est vrai que même quand il est à côté du radiateur, il faut qu'il regarde la forme du radiateur allemand. Oui, non, c'est vrai, complètement. Ouais.
Oui, moi je voulais juste dire qu'en fait, l'une des scènes qui m'a le plus parlé pour comprendre ce que voulait dire le film, parce que j'avoue, il y a des moments où j'étais un peu perdue, je savais pas trop vers où on allait, mais c'est la scène où il fait le rêve avec l'ingénieur italien, et l'ingénieur italien lui demande s'il veut un monde avec ou sans pyramide. Et au final, la réponse du film, c'est qu'il veut quand même faire ses avions, même s'il saura qu'au final, ce sera quand même utilisé pour faire la guerre, etc. Et lui, il répond, moi, je veux faire mes pyramides, je m'en fiche, je vais faire mes pyramides, même si, au fond, on comprend que ça va faire la destruction, etc. Lui, comme tu as dit, Julien, il reste focalisé sur son arête de poisson et sur faire les pyramides, c'est pas grave. Donc ça m'a parlé, les pyramides là-bas, je me suis dit, ah c'est bon, j'ai compris.
Ouais, mais c'est vrai que sur ça, le personnage est assez clair. Il ne doute pas une seule seconde. Il n'y a pas un moment où on le voit hésiter à se dire, peut-être que je devrais arrêter de faire mes avions. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule fois. Ce qui est étonnant, moi, je trouve, avec le film, c'est que pourtant, le regard reste empathique envers lui. Je trouve que ça, c'est une... On pourrait voir ça comme une faiblesse, on pourrait dire bah quand même c'est un peu le détacher de ses responsabilités. Moi je trouve que c'est une immense force de rester aussi nuancé et ça n'empêche pas de réfléchir et de voir un constat implacable à la fin. Enfin, ses rêves sont broyés et avec lui l'espoir de toute une génération de Japonais, même s'il continuera, le pays continuera sa modernisation après, mais c'est quand même tout un projet de société qui s'effondre à ce moment-là en même temps que lui. Et... je crois qu'il y a une phrase dans La Montagne Magique qui dit « Il est impossible de comprendre un individu sans le relier à la société de son époque », quelque chose d'assez évident comme ça. Mais disons que le film le fait à la place du personnage. Le personnage, lui, ne le fait pas, par contre. Il ne se relie pas. Mais le film le fait pour lui, quoi.
Et les gens autour de lui le font pour lui, parce qu'on lui adresse plein de signaux sur beaucoup de choses. Et notamment, un des personnages, quand il le voit affalé sur le lit, dit qu'il a l'air de porter tout le poids de l'avenir du Japon sur ses épaules.
On conclut du coup ?
Ouais.
Bah, vas-y.
surtout pour vous remercier d'être venu. Je ne peux pas vous indiquer exactement quel sera le film qu'on projettera le mois prochain. Voilà. Bon, on vous tiendra informé sur les réseaux. Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup, ouais.